Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue en direct au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Mordren.
Salut tout le monde.
D'ATH.
Bonsoir.
Et de Ben.
Salut à tous.
Ça va, Ben, le sommeil en ce moment ?
Oui, bah honnêtement, ça va plutôt bien. Hein. Comme on disait, c'est plus les travaux de la maison qui sont fatigants que le petit, mais c'est cool.
Bienvenue au club. Bienvenue au club. Au sommaire de l'actualité cette semaine, je vais raconter ma life, d'habitude. Voilà.
C'est ça qu'on veut.
On parlera également de Riot, qui pour les 10 ans a décidé que bon bah vas-y le cross-média maintenant, on y va. Non, voilà. On enchaînera ensuite sur Warcraft 3 Reforged. On parlera de un beau plagiat, un très beau plagiat. Hein.
Ouais.
Et on parlera du magnifique lancement de Youpel Plus parce que bon ils le valent bien. Voilà. Sans oublier le sujet de cette semaine, ATH, rappelle-nous quel est le sujet.
Le sujet, c'est « Les mauvais jeux n'existent pas », entre gros guillemets. Enfin, n'existent plus.
Voilà. Bon, messieurs, je vous propose de commencer donc par le segment « Le tyran raconte sa life ». Voilà, vous n'y échapperez pas.
Oui, raconte-nous une histoire, tyran.
Bon, c'est les auditeurs, vous pouvez vous barrer par contre, hein, mais eux, malheureusement, ils sont obligés de rester avec moi, donc voilà.
Je vais pisser. Alors, moi, allez, salut.
Cette semaine, je voulais parler de deux choses. Je suis heureux cette semaine, les gens. Parce que bon, la semaine dernière, vous voyez, j'étais un peu ronchon, tout ça. J'ai un peu râlé. Bon, j'ai un peu envoyé sur les Rose Prayer 365 dans les commentaires du dernier podcast aussi. Voilà, j'étais pas de bonne humeur. Là, je suis de très bonne humeur. Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit jeu qui est sorti cette semaine, un jeu fait par une équipe qui jusque-là était totalement inconnue, et ce jeu c'est Disco Elysium. Qu'est-ce que c'est ce jeu ? Bah c'est tout simplement l'aboutissement contemporain de ce que pourrait être Planescape Torment, c'est-à-dire c'est un jeu avec énormément blabla, énormément de dialogue, énormément d'embranchements en fonction des compétences que tu as choisies, et surtout c'est un jeu avec de l'anglais soutenu, de l'argot, où il y a quasiment pas de combat, et le peu combat qu'il y a, c'est des combats qu'on fait de manière textuelle, c'est-à-dire qu'on choisit les actions qu'on va faire, etc. Bref, a priori, c'est un jeu ultra niche, qui devrait pas se vendre. Et là, en ce moment, il est premier dans les ventes de Steam, il reçoit des super reviews positives, il a 95% de reviews positives, et moi je suis heureux parce que ça me fait plaisir de voir un jeu de niche comme ça qui se vend, où il n'y a pas de loot box à l'intérieur, c'est un jeu solo avec plein de dialogues, où t'as une vraie recherche sur l'écriture, où t'as des dialogues de tarés. Par exemple, le jeu, pour vous expliquer, il commence sur un dialogue entre le protagoniste et son cerveau reptilien.
Ok.
Parce qu'il est complètement bourré, donc il parle à son cerveau reptilien, voilà. Et le jeu est rempli de situations comme ça. Et franchement, si je devais vous donner un conseil, ceci est une publicité totalement assumée. Allez-y, achetez-le, c'est un ordre. Voilà.
Très bien. Écoute, en plus, en termes de DA, moi j'aime bien.
Ouais, non mais c'est un jeu qui est absolument magnifique en plus. En plus toi Mordren, pour le coup, qui est particulièrement versé dans l'anglais.
Ouais.
Je pense
parce
que ça
c'est,
pourrait...
c'est ouais, c'est précisons quand même que c'est pas il y a pas de VF du tout. Hein.
Oui.
Il y a pas de VF du tout. Voilà, ouais. Ça par contre c'est le défaut du jeu. Mmh. C'est-à-dire que et ça je pour le coup, autant tu vois, il y a des jeux où je dis non mais les mecs abusez pas quoi, c'est de l'anglais basique, c'est bon même si tu comprends pas le jeu, ouais. On s'en fout quoi. Autant là par contre, clairement c'est un défaut qu'on peut citer, c'est que si vous parlez pas anglais, ça va être compliqué quoi.
Ouais.
Parce que clairement, quand je dis que il y a l'argot et du langage soutenu, c'est vraiment du lourd quoi. Bon après, c'est le moment de vous mettre à l'anglais et d'avoir un dico à côté, hein. Mais clairement, ça serait bien que plus tard, il rajoute une VF et si possible une bonne VF. Et Dieu sait que là, ça va être compliqué. Je précise que c'est un jeu, je crois, qui a plus de 9 millions de mots à l'intérieur. Enfin bon, c'est lourd.
C'est le gros problème de ce genre de jeu, en fait. C'est que si tu veux passer la barrière de la langue, en réalité, ça te coûte extrêmement cher. Et si tu veux que ça soit bien fait, en plus, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, a priori, Si le jeu a du succès, il y a peut-être des chances que ils se décident peut-être à aller chercher des boîtes de localisation quoi.
Ouais. Ouais, mais un peu sérieuse quoi.
Oui.
Si vous voyez ce que je veux dire.
Ouais.
Alors, je sais que ils ont dit que si le jeu marchait, a priori, ils seraient tentés par faire des localisations.
Ouais.
A priori, ça marche. Donc, j'espère, pour les gens qui ne parlent pas bien anglais, que, ils feront une traduction de qualité du niveau de ce qu'on a pu avoir à l'époque avec Planescape Torment, quoi. Voilà.
Bon, c'est cool.
Ouais.
Ça fait bien envie, en tout cas.
Et pour continuer sur ce volet bonne humeur, n'est-ce pas, je vais vous parler d'un petit plaisir que j'ai eu. Je me suis lancé dans un autre petit jeu cette semaine qui s'appelle Pine, que j'appelle très affectueusement Pin. Voilà. C'est un jeu, franchement, sur lequel je prends énormément plaisir. Il est très, c'est un jeu qui me détend. Tu vois, quand j'y joue, il a une bande sonore qui me... C'est de l'ASMR. là, je trigger Mandrane, là, en fait.
Oui, ça me pose beaucoup de problèmes, là, c'est vrai. Ouais. Mais vas-y, continue.
Mais enfin, voilà, c'est un jeu, si tu veux, c'est un jeu auquel je joue, qui est pas extraordinaire non plus, si tu veux, qui a de très bonnes idées, notamment, qui a des idées un peu innovantes sur la gestion de l'intelligence artificielle, parce que tu vas, interagir avec des villages de PNJ, et en les aidant, ils vont essayer d'aller conquérir les autres villages, ils vont agrandir leur propre village, etc. Enfin bref, c'est vraiment très intéressant. Mais c'est surtout un jeu, moi, auquel je joue vraiment pour passer un bon moment après une journée de travail difficile et être détendu, quoi. Et par contre, il y a un truc qui me gonfle royalement dans ce jeu, c'est l'intro. C'est-à-dire que c'est une intro, tu vois, tu commences sur un plateau, en fait, un plateau géographique, hein, on s'entend, hein, où tu peux pas descendre, et c'est en gros, c'est la zone de tuto, tu vois. Et tu dois, on te dit, va voir connard, va faire ci, va faire ça, machin, c'est insupportable. Voilà, c'est vraiment insupportable. Okay. Et... j'ai eu un petit plaisir, et ce petit plaisir, ça a été de casser le jeu, en fait.
D'accord.
C'est-à-dire que je me suis dit, putain, cette intro, elle me casse les couilles, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de la skipper ? Alors, comme on est sur un plateau, j'ai d'abord tenté de me jeter dans le vide, hein, parce qu'il y a une petite rivière en bas. Alors, ils sont pas cons, tu vois, ils ont mis un truc qui te téléporte en haut quand tu te jettes en bas, hein. Parce que une fois que t'as fini le tuto, par contre, quand tu jettes à cet endroit-là, en fait, j'ai remarqué que ça rechargeait pas une zone, en fait. Tu vois, t'es tout de suite dans le monde. Donc je me suis dit peut-être que ça a marché, non, ça a pas marché. Ils avaient prévu le coup.
Bien chaud.
Par contre, ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai cherché à trouver une faille dans le dispositif, quoi. Et du coup, j'ai fini par en trouver une. Voilà. C'est alors en gros, il faut utiliser le saut parce que le saut dans ce jeu, il est pété en fait. Il te permet de casser des puzzles en sautant contre le mur. Tu sais, ça fait un peu comme le cheval de Skyrim, quoi. Tu vois, tu vas sur des parois que tu devrais pas aller, quoi, en fait. Et du coup, je suis allé à des endroits où je devais pas aller, mais ils avaient quand même essayé prévu le coup, tu vois, parce qu'ils ils ont mis un peu partout des trucs pour te re-téléporter vers le plateau central. Mais j'ai trouvé une sortie de la prison, tu vois. Hein, c'était prêt. Prison Break, hein. Et j'ai réussi à m'évader. Bon, malheureusement, hein, comme le jeu est mal foutu, certes, je suis sorti dehors et j'ai remarqué un truc intéressant d'ailleurs, c'est que l'IA active dès le début du jeu. C'est-à-dire que moi, je pensais que j'allais sortir, tu vois, et qu'en fait, il y a rien qui allait marcher dans le jeu, quoi. Parce que comme t'étais dans la zone de tuto, etc., je pensais que l'IA était pas active, etc., mais en fait, si. Mais par contre... Ce qui marche pas, c'est la quête principale. C'est-à-dire que la quête principale, il faut absolument que tu fasses certaines actions, en fait. Et t'es obligé de te taper ce tuto de merde. Voilà. Donc, j'ai réussi à sortir de la zone de départ, mais malheureusement, ce tuto, j'ai pas encore trouvé de moyen de le skip. Mais peut-être que je trouverai, hein, à force d'insister.
On a pas mal de questions sur le chat, de gens qui nous demandent un petit peu quel est le principe du jeu. Les gens ont l'air intéressés et se demandent exactement
ce
que c'est.
C'est un mélange de Zelda-like et de jeu de survie. D'accord. C'est un jeu qui perd à Mordogne parce qu'il y a plein de nerfs à ramasser. Hein, c'est... voilà. C'est-à-dire que, en gros, effectivement, t'as un côté Zelda-like, mais t'as pas de vrai donjon comme dans Zelda. C'est-à-dire que ça ressemble plus à Breath of the Wild, tu sais, avec des petits puzzles à la con à droite et à gauche. Okay. Tu vois. Et il y a un côté survie dans le sens où tu vas ramasser des ressources, etc. Et en fait, l'idée, c'est que tu joues à un gamin qui est dans une tribu humaine, qui est isolé en fait du reste de l'île, parce qu'en fait ça c'est un jeu qui se passe sur une île si tu veux. Ils sont vraiment isolés du reste du monde quoi. C'est-à-dire que ils ont pour règle, bon d'ailleurs c'est absolument pas crédible hein, le scénar, je le dis tout de suite. Hein. En gros ils sont restés isolés depuis des décennies sur ce plateau en fait. Ils osent pas aller au dehors. Et à un moment donné, il va se passer un truc qui va faire que le gamin va être obligé de sortir au dehors et de rencontrer les différentes tribus qu'il y a dans le jeu. Et ces tribus, en fait, dès que tu les croises, elles sont toutes hostiles. Ce qu'il va falloir faire pour faire en sorte que ces tribus deviennent tes potes, c'est les aider, en fait. C'est-à-dire leur filer des ressources, etc. Quand tu vas leur filer des ressources, elles vont pouvoir construire des trucs, ce qui va leur permettre de s'agrandir, d'attaquer les tribus voisines et ce genre de choses. Sachant qu'il y a un système intéressant de relations intertribus, c'est-à-dire que si tu es d'une tribu adverse, les autres tribus vont te faire la gueule, voilà. Mmh. Si tu es ennemi avec une tribu, elles vont t'attaquer à vue, ce genre de choses, voilà. Donc c'est un jeu où il y a un petit côté émergent comme ça, ouais. Parce que à chaque fois que tu commences une partie, t'as jamais la même tribu qui se trouve en face de ton village, hein. Elle se trouve pas forcément d'ailleurs tout au même endroit. Elle choisit des emplacements différents à chaque fois. C'est un jeu qui se veut dynamique, si vous voulez. Il y a un petit côté Zelda avec des petits puzzles un peu à droite à gauche. Tu vas pouvoir te crafter ton équipement, ce genre de choses. Il y a un petit côté Breath of the Wild. Bon, faut pas exagérer. Hein. Vraiment, c'est très très light. Surtout, n'allez pas comparer à Breath of the Wild. Ne vous attendez pas à du Breath of the Wild. C'est vraiment très light comparé à ça. Je dis ça pour pas que les gens, tu sais, soient déçus quand ils vont lancer le jeu. Mmh. Attendez-vous plutôt à un petit jeu sans prétention, qui a quelques très bonnes idées, qui a une ambiance bien chill, et sur lequel personnellement je passe un très bon moment avec une faune, une flore dynamique et tout, quelques puzzles par-ci par-là qui font plaisir. C'est un jeu qui paye pas de mine, qui aurait peut-être mérité un petit accès anticipé quand même, parce qu'il y a quelques bugs à droite et à gauche, rien de dramatique, mais c'est le genre de truc qui peuvent te pénaliser quand tu es un indépendant. Hein. Mmh. Et moi, honnêtement, pour le moment, je passe un bon moment dessus. Je vous en reparlerai quand j'aurai terminé, parce que je pense que je vais terminer.
Ça marche. Bon, bah c'est cool.
Alors, il y a un scénario, mais honnêtement, Osef.
Ok.
Voilà, Osef, mais total, quoi. Surtout, par contre, il y a une VF, mais alors qu'est-ce qu'elle est nulle à chier, putain. Aïe. Alors là, c'est dans le genre localisation honteuse, ça se pose là, quoi.
Bon. Écoute, on peut pas réussir sur tous les tableaux, hein, visiblement.
Alors, c'est pas un roguelike, Veost. Hein. Si tu meurs, tu recommences pas au tout début. Hein.
D'accord.
Voilà.
Ok, on passe à la suite ?
Ouais, bah écoute, on va enchaîner. Donc, on va parler de Riot. Hein. Bon, messieurs, Riot a fêté les 10 ans de League of Legends cette semaine. Alors, en plus d'avoir annoncé une série animée... qui a de la gueule d'ailleurs, hein, je tiens à le dire. Mmh. Ils se sont lâchés quoi. Ils ont annoncé un jeu de combat. Yes. Ils ont annoncé ce qui ressemble à un hack and slash, on n'est pas sûr. Ils ont annoncé un FPS qui ressemble à Team Fortress et un espèce de croisement entre Team Fortress et
Overwatch.
Comment il s'appelle ce jeu? Mais c'est pas possible. J'ai oublié le nom de ce jeu bizarre.
Overwatch. Ça fait Overwatch, deux fois qu'on te le dit.
je vous ai pas entendu. Voilà, j'adore ce podcast où le son coupe toutes les deux secondes. Et ils ont annoncé un jeu de cartes. Voilà, yes. Voilà.
Qui s'appelle Legends of Runeterra. Je vous passe quelques images truc.
On va surtout s'attaquer au jeu de cartes parce que les autres, fondamentalement, on n'a pas vu grand-chose. Morgane, en gros, tu vas me dire ce que t'en penses. Hein. Mmh. L'idée de ce jeu de cartes, ça ressemble quand même pas mal à Hearthstone.
Oui.
T'as un système de tours, sauf que pendant les tours, chacun va jouer l'un après l'autre. C'est-à-dire que tu poses une carte, l'adversaire pose tout de suite une carte en face.
Ouais.
Déjà, t'as ce système-là. Ensuite, t'as un système de sorts. C'est-à-dire que t'as des sorts que tu peux lancer en début de tour, t'as des sorts que tu peux lancer en fin de tour, et tu as des sorts que tu peux lancer en réaction des sorts de l'adversaire. Voilà. Donc, c'est en gros, moi, ce que j'ai retenu, c'est vraiment ça, la grosse originalité du système du jeu, de jeu. À part ça, ça ressemble beaucoup à Hearthstone. Donc, mon cher Mandrain, sachant que ce jeu a annoncé qu'il n'y aurait pas de paquet de boosters.
D'accord.
Je sais pas comment
ça sera
monétisé
du coup.
Non, on sait pas trop. Je pense sûrement à un modèle à artefact, vu qu'il paraît que les joueurs pourront acheter les cartes directement. Hein. Mais du coup, qu'en penses-tu, toi, le spécialiste des jeux de cartes?
Bah, écoute, le côté intéressant et le côté un peu novateur de tout ça, c'est les activations alternées. Alors, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le milieu du jeu de société en ce moment. Mmh. Parce que ça permet de dynamiser la partie en fait et de faire en sorte que t'es pas un joueur qui joue pendant une demi-heure et l'autre ensuite qui l'attend. Et ça pour le coup ça marche pas trop mal. Faut voir comment ça se présente par contre dans un jeu de cartes, parce que pour le coup je crois pas avoir joué à un jeu de cartes qui ait ce genre de mécanique là.
En tout cas qui se veut compétitif.
Ouais, en plus. Mmh. Donc pour le coup c'est un point d'interrogation, et effectivement bah comme d'habitude hein, sur les jeux de cartes à collectionner ou à pour faire de la compétition, c'est la grosse question, c'est toujours le modèle économique quoi. Est-ce que ça va être un truc vertueux entre guillemets à base de t'achètes l'extension et bah t'as toutes les cartes dans l'extension? Je le souhaite. Si c'est une histoire de trading platform, je pense que je serais beaucoup moins fan. Donc là-dessus, on verra, mais en tout cas, il a l'air plutôt plutôt bien avancé hein, leur jeu déjà.
Ouais. Alors par contre, les trois autres projets, comme je le disais, c'est vraiment un stade très embryonnaire. Le plus avancé des trois autres, ça a l'air d'être le FPS. Ouais. Ce que j'aime bien dans la communication qu'ils ont fait autour, c'est qu'ils s'attachent à des points techniques qui sont importants. C'est-à-dire des choses comme le tick rate. Le tick rate, je rappelle, c'est le nombre d'informations qui sont envoyées à la seconde au serveur en fait. Donc c'est assez important, voilà. Ouais. Le cheat aussi.
Bien sûr.
Moi j'aime bien, tu vois, quand on commence par ça, parce que c'est des fondamentaux en fait. Si tu maîtrises pas le côté technique du truc, si ton jeu il est pourri par des pirates, c'est pas la peine. Voilà.
Ouais. Bien sûr. Non mais je sais pas ce que vous pensez de toutes ces annonces là. C'est assez impressionnant de voir que Riot se bouge un peu en fait. Enfin,
parce que Dieu sait que ça fait des années qu'ils gagnent un fric monstre et qu'ils en foutent pas grand chose.
Ouais.
Quoi, donc...
Et du coup, enfin moi quand je vois l'intégralité des annonces, je me dis en fait les gars ils veulent combattre Blizzard quoi sur leur propre terrain.
C'est un peu l'idée, ouais. Ils sortent les projets ressemblants entre le jeu de cartes, le Team Fortress-like,
le hack and slash.
Le hack and slash, fait vraiment c'est la même base en tout cas que ce que fait Blizzard.
Le seul truc que Blizzard a jamais testé pour le coup, c'est le jeu de combat en versus fighting. Donc à voir ce qu'ils vont faire. Est-ce que tout est développé en interne chez Riot ou est-ce qu'il y a des studios prestataires? Ça, je suis pas sûr qu'ils en aient parlé déjà. Mais peut-être que ils auront quand même besoin d'un peu de main d'œuvre hein, pour faire tout ça.
Après voilà, comme le disait Tyran, pour l'instant il n'y a pas vraiment de date annoncée, etc. Donc voilà, ils peuvent, même s'ils l'ont annoncé, ils ont un peu de temps devant eux à voir comment ils s'arrangent. Si voilà, s'il faut appel à un studio externe, si c'est compliqué, etc. Quoi.
Bien sûr.
Voilà. Et la série animée, putain, elle a l'air tellement belle. Wow.
Et à noter également qu'ils ont sorti un documentaire sur League of Legends sur Netflix. Une série docu sur, je crois, c'est la création du jeu, un truc comme ça. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est dispo.
Alors, mon seul regret dans toutes ces annonces, c'est que ils en aient pas profité pour annoncer un nouveau projet, mais qui n'a rien à voir avec LOL, quoi, tu vois. Ok, voilà, LOL c'est bien, mais on a autre chose à montrer comme univers, quoi, si tu veux. Mais bon, après, ça reste quand même des jeux originaux, entre guillemets. J'insiste sur les guillemets.
Ouais.
Donc, pourquoi pas. Voilà.
Ouais, carrément.
Bon, messieurs, on a eu du gameplay de Warcraft 3 Reforged. Qu'en pensez-vous?
Attends, je le branche pour nos amis, qu'ils puissent le voir.
Pour ma part, je sais pas quel est votre point de vue là-dessus, mais je pense que le compliment le plus flatteur que je pourrais faire, c'est que ça ressemble à ce que j'avais en mémoire.
Ouais. Voilà. Et général, c'est plutôt correct comme compliment sur ce genre de choses en fait.
Et Dieu sait que le jeu original est dégueulasse maintenant en fait.
Et c'est vrai que moi, je me souviens de l'annonce du projet et je me disais, ça peut être franchement sympa si ils se sortent les doigts pour le coup. Après, je trouve que le jeu est joli, il tourne, a priori, les 100 FPS sont quasi constants, si j'en crois la vidéo. Après, voilà, c'est pas une réimagination complète de ce qu'était Warcraft 3. C'est de l'ordre du remaster, du bon remaster, quoi.
C'est ça, c'est un bon coup de polish par-dessus, quoi.
C'est exactement ça. Bah, c'est ce qu'ils avaient fait sur StarCraft 1. Ils font exactement la même chose, en fait. Et c'est vrai, alors on a Hicham qui nous dit le OZEF est total.
Bah écoutez, les gens, il y a des gens pour qui Warcraft 3 est culte, il y a les autres, quoi, tu vois.
Donc, oui, bien sûr.
Moi, je fais partie des autres aussi, donc voilà, pour moi aussi, c'est OZEF, mais après, bon, voilà, on peut pas leur reprocher.
Moi, je voulais que je vous dise quoi, meilleure campagne solo ever dans un RTS. Hein,
moi, je me souviens avoir passé de très très bons moments sur la campagne solo pour le coup.
Ah oui, non, mais ce jeu, c'est quand même un bon souvenir et qui revient souvent dans beaucoup de discussions, même pour des gens qui n'étaient pas énormément joueurs. Mais la campagne solo de Warcraft 3, c'est vrai que ça revient très très souvent dans la discussion entre joueurs.
Et particulièrement Frozen Throne pour moi. Je crois que je préfère l'extension au jeu de base. Ouais. D'ailleurs, je sais pas exactement s'ils ont communiqué là-dessus, si le Warcraft 3 Reforged c'est le jeu de base plus l'extension, ou si on passera deux fois à la caisse, ça je me souviens pas.
Ça serait quand même un peu vache. Hein,
ça serait assez moche qu'ils fassent ça par contre.
Ouais. Je crois que le StarCraft Remastered, pour le coup, il y avait les deux.
Ouais, d'accord.
Donc je suppose qu'ils vont faire la même chose.
Baby qui nous dit Diablo 4 Next Biscon, ils ont pas le choix.
Voilà. Oui. Ouais, ouais.
Il faut qu'ils sortent un truc là.
C'est clair.
Parce que vu ce qu'ils vont se prendre dans la gueule à la prochaine Biscon, il faut qu'ils aient une grosse annonce.
Et je pense qu'il faut qu'ils l'annoncent assez tôt d'ailleurs, par rapport au début de la Biscon, parce que là, c'est leur seul moyen de faire taire le sentiment grandissant autour de la marque Blizzard, mais aussi il faut qu'ils fassent gaffe à annoncer leur jeu mobile d'une autre manière aussi,
sauf s'ils annulent la BlizzCon, parce que je rappelle qu'il y a eu un lancement là récemment, c'était pas Overwatch sur Switch, je crois que c'était ça, ils ont annulé l'événement de lancement.
Ah ouais.
Et c'était pas genre un petit truc, hein. Ils marchent sur des œufs là, donc à mon avis là, la BlizzCon, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ça va être tendu, quoi. Ouais,
ça leur coûterait une thune pas possible, hein, par contre, d'annuler la BlizzCon, donc.
Déjà t'as tous les billets qui coûtent un bras à rembourser.
Bah ouais. Je pense que ça envenimerait la situation encore
plus.
C'est ça,
en termes d'image et tout, c'est peut-être pas le meilleur truc à faire non plus à ce moment-là, ouais.
Ils se chient dessus, ils ont aussi annulé un événement WoW. Ah, je savais pas ça, tu vois. Putain, non mais bon, en même temps, je crois que eux-mêmes ils savent pas trop où ils sont. Ça plus le fait qu'à mon avis, je pense qu'il y a des employés qui doivent pas trop approuver ce qui se passe en ce moment aussi. Ouais. Donc à gérer tout ça, ça va être compliqué, quoi.
C'est un sacré merdier, ouais.
Et c'est la première fois de mémoire que Blizzard est autant dans la merde d'un point de vue com. J'ai l'impression.
Ils ont réussi à faire plus fort que l'année dernière, alors que l'année dernière c'était déjà leur année noire, donc quand même.
Là c'est rude, hein.
C'est bizarre, depuis qu'ils sont passés directement sous le contrôle d'Activision. Moi, je veux pas faire de lien cause à effet, hein, mais voilà.
Est-ce qu'ils vont nous faire une Bungie?
Ah, peut-être, peut-être. Bon, messieurs, on passe à la suite.
Yes.
Bon, je voudrais qu'on parle de la plagiat. M'en remets la vidéo déjà parce
c'est
que
l'histoire
là,
d'un plagiat.
Mais en fait, c'est bizarre, tu vois, parce que c'est un plagiat, si vous voulez. Enfin, c'est évident que c'est un plagiat, mais d'un autre côté, je suis désolé, je peux pas me retenir de dire que, franchement, les mecs, ils ont bossé, quoi.
Ouais.
Enfin, il y a un énorme taf derrière, quoi. Et donc, c'est un plagiat de Cuphead. Hein, ça se voit, c'est le même style graphique, c'est le même gameplay, c'est le même principe de combat, de boss rush, etc. Enfin, c'est Cuphead, tu vois, dans un autre univers, mais c'est Cuphead avec quasiment le même style graphique. Sauf que ça défonce tellement c'est beau, quoi. Mais c'est Cuphead, c'est un putain de plagiat, quoi. Mais c'est trop beau. Parce que, encore si c'était que une reprise du style graphique, je dirais, bon, je veux dire, Cuphead n'est pas propriétaire de ce style graphique-là, si tu veux, quoi. Mais c'est le même gameplay, en fait.
Ouais. Ouais.
C'est le même jeu. C'est vraiment le même jeu, quoi. Tu me dirais, c'est un DLC de Cuphead, je te croirais, tu vois.
Oui, carrément.
Et mais par contre, putain, qu'est-ce que c'est beau. Et ce que je voudrais juste te dire, les gars, c'est quand même dommage de se sortir les doigts du cul pour pondre un truc aussi beau.
Bah ouais.
Et pour juste plagier Cuphead, quoi. Alors après, peut-être qu'il y a un calcul derrière pour dire ouais, du coup, comme on plagie Cuphead, on va nous chier à la gueule et tout, on va parler de nous, tu vois. Et ça marche, hein, je tiens à le dire. Mais quand même, c'est un peu couillon, je trouve, quoi.
Bah, c'est clairement, tu vois qu'il y a de la qualité dans ce studio. Enfin, ça se voit à l'écran, quoi. Et enfin, je sais pas ce qui peut leur arriver. Parce que effectivement, ça ressemble énormément à Cuphead, mais est-ce que les développeurs de Cuphead peuvent se retourner contre eux? J'en sais rien.
Bah non, enfin non, et d'ailleurs bon, encore heureux, parce que enfin si tu veux, il y a quand même un vrai travail derrière, quoi. Tu peux
bien
pas
sûr,
ouais. Si on part par là, tu sais, bon, Cuphead c'est du Gunstar Heroes avec un boss rush, quoi. Donc ouais. Bon, voilà. Surtout que bon, cloner Cuphead, c'est quand même compliqué, tu vois, enfin
carrément. Ouais.
Ils ont quand même leur propre univers, etc., donc bon. C'est quand même un peu dommage, quoi.
Mais en tout cas, ouais, c'est superbe. Hein. Franchement,
ATH, toi qui as pas mal joué à Cuphead,
Je n'ai rien à foutre.
On l'a réveillé, ATH.
Merci, ATH. Bon. Messieurs, on va terminer par... En fait, le jeu s'appelle Enchanted Portage. Je sais pas si je l'ai dit, pour le coup.
Non, je crois pas que tu l'aies dit, ouais.
Je l'ai pas dit, donc le jeu s'appelle Enchanted Portals. De toute façon, je vous mettrai les liens.
Oui, c'est la description. Ce qu'on a pas dit, c'était l'émission. Un Kickstarter aussi.
Oui.
Oui, le Kickstarter est prévu pour la semaine prochaine.
On va maintenant parler du lancement de Uplay+, juste pour dire que bon, là, c'est pas une grande réussite, hein. Bon, déjà, à la base, je vous avoue que Uplay+, j'ai du mal à conceptualiser comment on peut trouver ça intéressant. Mais bon, parce que encore, si ça te donnait accès non seulement au catalogue d'Ubi, mais d'autres éditeurs, je dirais pourquoi pas, mais là c'est Ubisoft, quoi. Bon, je veux dire, déjà, t'as joué à un de leurs jeux, t'as joué à tous leurs jeux, donc quel intérêt? Voilà, quel intérêt? Je comprends pas, ça me dépasse. Mais bon, il y a quand même des gens, visiblement, qui ont essayé de s'abonner à Uplay+, et du coup, ils ont été punis par Ubisoft, qui leur a dit, bah non, fallait pas s'abonner. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a des gens qui sont abonnés qui ont été débités 6 ou 7 fois par Ubisoft.
Non.
Et qui n'arrivent pas à utiliser Uplay+, je sais pas si. Voilà, voilà. C'est Ubisoft, quoi, tu vois, enfin, c'était la même chose, tu sais, quand ils ont lancé leur launcher, là, quand ils ont lancé Uplay, c'était de la grosse merde, qui marchait pas, c'était une catastrophe, bah voilà, Ubisoft, quand ils savent pas faire, tu vois, ils savent pas faire, ils essayent de faire les gros bras, tu vois, ils essayent de lancer leur propre service, mais ils savent pas faire, ils font de la merde. Donc voilà, c'était bien la peine, Ubisoft, hein, de lancer votre propre service. Soit dit en passant, les gens, je vous ai mis un lien vers un post Twitter qui est très drôle, où t'as un gars
qui
met les imprimés
voir,
d'écran.
C'est voilà. Vraiment très marrant, je l'ai parcouru le truc, ça vaut le coup, ouais.
Non mais voilà, le hashtag le respect, hein, le respect du client, tout ça. Enfin bref. Messieurs, je propose qu'on réveille ATH. ATH, pourrais-tu nous parler du sujet de la semaine, s'il te plaît?
Le sujet de la semaine, c'est... On entend souvent dire que les mauvais jeux n'existent plus. Et avant tout, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. ce que vous en pensez, tout simplement. Donc, on va faire un tour de table.
On va juste une question préalable, parce que je pense qu'il faut définir un contexte, là, si tu veux. Quand tu dis les mauvais jeux n'existent plus, est-ce que tu parles vraiment d'une manière générale, ou vraiment c'est quelle que soit la plateforme, quelle que soit d'une manière générale, quoi, tu vois. Enfin...
Alors d'une manière générale, on va dire les jeux qui sortent en retail, donc en magasin.
Mmh. Ok. Parce en que... magasin seulement.
Oui, ouais. Enfin, ceux qui ont on va dire une édition physique et téléchargeable. Des jeux qui sont mis en avant, on va pas prendre de toutes les merdes qu'il y a sur Steam et tout, parce que là, dans ce cas-là, on va plus en sortir. Mais on
ah
va...
oui, oui, non, mais
ah oui, c'est pas le c'est plus j'allais dire. Truc, du coup,
ouais. Ouais, bien sûr. Ouais.
L'angle mort du raisonnement, c'est ça, tu vois. C'est...
Ouais, ouais.
Et c'est quand même un gros angle mort.
Non, mais du coup, la question est valable.
Non mais je posais la question parce que moi direct j'attaquais sur ça hein, donc c'est pour ça que
ah oui non mais c'est pour ça que
je tenais à préciser le contexte quoi. Donc messieurs, je vous laisse commencer.
Moi en fait la première chose que j'ai pensé quand j'ai réfléchi à la question, c'est pas tant que ces jeux-là n'existent plus, c'est que on n'en entend pas forcément parler quoi. Dans le sens où il y a déjà tellement de bons jeux ou même des jeux moyens qui sont mis en avant qu'en réalité le facteur mauvais, quand tu regardes les journalistes, ils ont plus le temps en fait de traiter ces trucs-là. Mmh. Alors c'est assez rare qu'on fasse des tests nous-mêmes dans le podcast et qu'on vous dise ça c'est vraiment de la merde. Après, ça arrive de temps en temps quand il y a arnaque. Quand on en a parlé d'ailleurs la semaine dernière ou il y a deux semaines du FIFA 19, enfin du FIFA 20 Switch. Et donc c'est ce genre de choses-là, t'en entends un petit peu parler. Mais le vrai truc mauvais, ça fait longtemps effectivement que j'ai pas vu de trucs immondes quoi. Après est-ce qu'il faut regarder uniquement les notes des jeux pour savoir qu'il y a plus de jeux mauvais qui sortent? Je sais pas, tu vois. Moi j'ai beaucoup entendu parler du fait que le nouveau Ghost Recon a priori c'est pas top du tout.
Allez, d'ailleurs c'est de ça dont je voulais parler en fait, parce que ATH, tu m'aurais posé cette question il y a 3-4 ans. Je t'aurais dit, en tout cas dans ce contexte-là,
hein, ouais.
Je t'aurais dit non, ça n'existe plus. Maintenant, pour moi, c'est en train de revenir en fait. C'est-à-dire que quand je vois le dernier Ghost Recon, quand je vois Anthem, pour moi, je suis désolé, c'est des vrais jeux mauvais qui ont des vrais. En dehors, je parle même pas de technique là. Enfin, même déjà pour moi, la technique ça compte. Hein. Je suis désolé. Oui. Quand la technique te gâche ton expérience de jeu,
clairement,
c'est un mauvais jeu déjà hein, de base. Et ça, ces problèmes techniques là, c'est des choses qu'on ne voyait plus depuis l'époque de l'Atari, tu vois, ou ce genre de choses. Tu sais, cette époque fabuleuse, on sortait des jeux de merde qui étaient finis à la pisse. Et où on se disait, c'est pas grave, ils vont acheter quand même. Ça, on est en train de revivre, à cause de l'accès anticipé, en fait, déjà, j'ai l'impression qu'on est en train de revivre cette époque-là sur des AAA, en fait. Déjà, ça, c'est le premier point. Et en plus, moi, je pense qu'il y a des gros jeux qui ont des problèmes fondamentaux de conception.
Ouais.
Genre Fallout 76. Enfin, je suis désolé, c'est même pas un problème fondamental de conception, il n'y a pas de conception derrière ce jeu. Enfin, je suis désolé, quand tu sors un jeu multijoueur où t'as même pas de quête, où t'as rien à faire, en fait... à un moment donné, c'est qu'un petit souci, quoi. Tu vois, enfin, moi, je comprends pas qu'on puisse regarder Fallout 76 et ne pas dire, non, là, c'est vraiment de la grosse merde, quoi.
Exactement ce que dit LKBD dans le chat. Il dit, il y a moins de mauvais jeux, mais beaucoup plus de jeux au potentiel gâché. Et je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, ouais.
ATH, excuse-moi, je t'ai interrompu.
Non, c'était juste pour faire une précision sur ce que disait Mandrain. Ghost Recon Breakpoint.
Ouais,
jeuxvideo.com l'a noté 17 sur 20 en parlant de notes, et l'avis des lecteurs c'était 9,6 sur PC. Faut dire le décalage qu'il y a entre les joueurs et ce que les journalistes. Après, on va pas faire un complot les journalistes tous pourris. C'est juste que voilà, les journalistes n'ont sûrement pas testé le jeu en entier. C'est maintenant on le sait, hein, qu'il y a les journalistes.
Ce genre de jeu, de toute façon, c'est compliqué.
Des jeux très longs et tout ça, donc. Mais au moins, enfin, quand tu fais un jeu, si tu veux faire un test honnête, t'essayes d'aller le plus loin possible. Ça serait peut-être bien aussi qu'il y a, comme ça, il y aurait de moins en moins de décalage avec ce que la presse dit et ce que les joueurs pensent. Mais ouais, c'est intéressant ce que vous avez dit parce que vous êtes partis sur des directions différentes tous les deux. Et Ben, qu'est-ce que t'en penses toi de ça?
Bah, moi, j'ai encore un point de vue un peu différent, c'est qu'aujourd'hui, je joue tellement peu entre guillemets par rapport à une époque, c'est qu'en fait, même si le jeu, on va dire, est moyen, je vais même pas m'y attarder dessus parce que, on va dire que mon temps de jeu est précieux. Et donc j'essaie de faire vraiment un truc qui va m'attirer vachement. Par exemple, je vais prendre un exemple, The Witcher 3, j'ai pas accroché tout de suite. Et ben, il y a une époque, je me serais accroché pour essayer d'y jouer un peu plus longtemps, pour faire plus d'heures, pour voir si j'arrivais à me mettre dedans. Là, il m'est tombé des mains parce que je peux pas me dire je vais y passer 30 heures et s'il me plaît moyen, je laisse tomber au bout de 30 heures. Je préfère m'arrêter au bout de 5 heures par exemple et aller sur un autre jeu qui va plus me plaire où je vais tout de suite être dedans par exemple. Donc personnellement, en fait, j'ai du mal à me rendre compte s'il y a des mauvais jeux parce que ceux que je fais maintenant, en fait, je les choisis vraiment, alors qu'à une époque, voilà, j'aimais bien tester ce qui sortait, des fois des petits jeux, etc. Mais voilà, après je peux aussi rejoindre clairement LKBD sur le fait que aujourd'hui c'est des jeux qui sont mal exploités. Si on prend par exemple le jeu qu'on a fait avec Tyran il y a peut-être un an ou deux, là, A Way Out, c'est un jeu qui aurait pu être super bien et finalement c'était un jeu très très moyen au final.
Mais est-ce que c'est un mauvais jeu ou pas pour toi? Par exemple.
Non, après, non, parce qu'on a passé, voilà, on a passé quelques heures, on s'est pas ennuyé. Après, bon, le jeu, je crois, il faisait 5-6 heures, tirant quelque chose comme ça pour le finir.
Ouais, c'est ça.
Voilà, 5-6 heures, en fait, même si le jeu est moyen, tu le finis, tu peux, voilà, c'est sympa. Il y a plein de défauts, etc., mais il y a quelques passages qui sont sympas, voilà. Le jeu aurait fait 40 heures, comme ça, déjà, je pense qu'on serait pas allé au bout, mais imaginons, on allait au bout, je pense qu'on aurait dit que c'était un mauvais jeu.
Bon, après, moi, je vais pas le cacher, hein. Voyage, j'ai pas passé un bon moment.
Voilà. Enfin, non, mais voilà. On l'a quand même fini, par exemple.
Tu t'en rappelles, oui, on l'a fini.
Oui, oui, mais parce qu'en fait.
Tu te rappelles qu'on l'a dans quelles conditions on l'a fini.
Oui, voilà.
Et surtout, comment j'étais désagréable sur la fin.
Clairement, c'est un jeu, voilà. Heureusement qu'on l'a fait tous les deux, micro-casque, oui. qu'on discutait, que voilà, on trollait le jeu. Sinon,
c'est pour ça qu'il a pas aimé, c'est parce que t'étais là, en fait.
Peut-être aussi, c'était le partenaire, peut-être, qui était pas bon, exactement. Mais non, voilà, moi aujourd'hui, ouais, je peux pas vraiment dire qu'il y a un jeu qui soit mauvais parce que je l'ai pas entre les mains, donc c'est dur pour moi de juger.
Ouais, mais en tout cas, c'est intéressant ce que vous dites parce que déjà, il y a pas mal de jeux qui reviennent dans la liste, là, je vois chez les auditeurs. Par exemple, il y a Anthem qui est cité, un jeu avec un beau potentiel de départ, mais qui a été gâché par sa publicité mensongeure, et puis après, je pense que il y a tout ce qu'on a pu dire dessus, le système d'expérience qui est complètement foiré, le fait que tu joues en normal, en fait, c'est mieux que de faire les quêtes légendaires, enfin, plein de trucs comme ça qui sont venus empester sur le jeu. Fallout 76, un jeu dont on a beaucoup entendu parler, et on en parle encore de nos jours, parce que le jeu est tellement pourri. Ghost Recon Breakpoint, alors là, j'ai vu un test dans l'après-midi même. Je comprends pas comment on peut sortir un jeu comme ça aujourd'hui techniquement, c'est-à-dire que le jeu est ultra buggé. La dernière fois, Tyran m'avait dit ouais le jeu il a chié, enfin il est mal optimisé et tout, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Là, ce que j'ai pu voir, c'était un truc. Je me suis dit waouh, les mecs quand même, ils en ont rien à foutre quoi. C'est-à-dire on sort le jeu et puis après on patch quoi. Et puis après Ubisoft ils sont pas innocents par rapport à ça. Hein. Ils nous avaient déjà fait le coup avec Assassin's Creed Unity. Et plein d'autres jeux qui sortaient comme ça à la ramasse dès le premier jour. Mais ça, on va dire, c'est encore des trucs techniques qui peuvent corriger par la suite. Et au final, le jeu, peut-être qu'il deviendra bon un jour s'il est corrigé. Mais pour moi, il y a un plus grand fléau, en fait, aujourd'hui. C'est pas les jeux qui soient mauvais en soi. Parce qu'avant, même la période PlayStation 1, PlayStation 2, souvent les adaptations de films, c'était des jeux qui étaient assez mauvais. Mais tu pouvais y jouer, quoi. Tu pouvais y jouer, et même si le jeu n'était pas forcément mémorable, tu pouvais quand même en avoir un souvenir agréable, parce que voilà, le jeu, tu aimais l'univers, ou tu aimais certaines choses dans le jeu qui n'étaient pas totalement foirées. Par contre, aujourd'hui, moi, je me suis fait la réflexion, en fait, il y a très longtemps, c'était en jouant à Days Gone. Alors Days Gone, comme ça, tu te dis, ouais, bah le jeu, il a été testé partout dans la presse, il a reçu des bonnes notes, il y a rien à redire. Et quand j'ai joué au jeu, bah le pire sentiment qui puisse apparaître pour moi dans un jeu vidéo, c'est le sentiment où je me fais chier quoi, tout simplement. C'est-à-dire le jeu, techniquement, bon déjà il avait des problèmes techniques, il ramait et tout ça sur PS4 Pro, mal optimisé. Mais encore, il n'y avait pas de bug ultra gênant qui empêchait ma progression ou bien j'ai perdu ma sauvegarde. Donc on va dire à ce niveau-là, si tu veux, ça pouvait aller. Et par contre, un jeu où tu t'endors pendant que tu y joues, tu te dis, c'est quand même assez chaud. Et pour moi, en fait, c'est ça qui est pire. C'est qu'aujourd'hui, les jeux sont tellement formatés, ils se ressemblent tous les uns des autres quasiment, dans un type de jeu précis. Par exemple, un FPS va ressembler à un autre FPS, un jeu en monde ouvert va ressembler à un autre jeu en monde ouvert. Et du coup, en fait, il n'y a pas vraiment de diversité. Et même avant, où tu avais encore, quand les technologies commençaient à apparaître, l'apparition de la 3D, bah les gens, même s'ils se rataient, au moins ils tentaient des choses. Et du coup, ça veut dire que même si un jeu était mauvais, bah il y avait quand même quelque chose qui pouvait être sympa, tu vois, parce que les mecs, ils tentaient des choses que tu n'avais pas vues avant. Mais aujourd'hui...
Tu vois, c'est pour ça, TH, par exemple, que moi, je prends beaucoup de plaisir à jouer à Pine, malgré le fait que fondamentalement, il est... c'est pas un jeu qui est parfait. Si tu veux, c'est-à-dire qu'il y a, beaucoup de bugs, etc. Mais comme ils tentent des nouvelles choses, tu vois, c'est plaisant. Ça fait plaisir de voir quelque chose qui sort un peu du carcan habituel. Alors c'est pas non plus débordant d'originalité, mais c'est tellement rare qu'un jeu ne serait-ce qu'un peu original, tu vois, que c'est un rafraîchissant, quoi.
Ouais. Non, mais je te rejoins là-dessus, ATH, le côté. En fait, maintenant, alors certes, il y a beaucoup plus, enfin, on voit moins passer entre nos mains, en tout cas à nous, de joueurs, des jeux qui sont mauvais intrinsèquement. En revanche, j'ai quand même l'impression qu'il y a de plus en plus de jeux, par le fait qu'ils soient formatés, qui nous rendent complètement indifférents quand on y joue. Et effectivement, je suis assez d'accord avec toi sur le nivellement de la production vers le bas, en fait, sur le côté, en fait, il y a le cahier des charges et il y a ça qui te saute aux yeux parce que, c'est comme ça que les concurrents font. Je suis d'accord avec vous que le facteur originalité maintenant dans ce monde du jeu vidéo actuel, de fait, il est un peu plus, vecteur de bonnes sensations, enfin pour des joueurs un petit peu chevronnés, je pense que ça joue beaucoup dans l'appréciation de ces jeux-là à mon avis.
Ouais, par exemple moi si tu me demandes dernièrement sur ces dernières années quels sont les jeux qui sont mauvais, je vais réfléchir en pensant à des jeux en restant dans la thématique, c'est-à-dire pas en cherchant des jeux pétés sur Steam et tout ça, parce que par exemple j'ai vu des jeux comme Black Tiger qui c'est complètement n'importe quoi, un jeu qui est sorti sur PS4 mais il a des graphismes de jeu PS1, c'est mal optimisé, c'est dégueulasse. Mais par contre en termes de gros jeux entre guillemets qui sont sortis, moi je te dirais les mauvais jeux que j'ai pu jouer, c'était par exemple Final Fantasy XV dernièrement, Death Gun ou bien The Order. C'est parce que c'est des jeux qui ne m'apportent rien. J'ai envie de lâcher la manette au bout de 5 minutes tellement c'est ennuyeux. On utilise des codes qu'on a déjà vus partout. Et du coup, je me dis peut-être que c'est ça en fait le problème aujourd'hui de des gens qui jouent depuis longtemps, c'est qu'on entre guillemets, on connaît certaines mécaniques qui sont utilisées puis réutilisées. Et pour vous, moi j'aimerais bien savoir une question à vous poser, c'est est-ce que aujourd'hui, on peut pas dire que les jeux qui étaient autrefois mauvais aujourd'hui seraient les jeux moyens entre guillemets.
Les jeux qui étaient autrefois mauvais seraient les jeux moyens d'aujourd'hui.
Oui, voilà, ou bien tu vois les jeux qui te laissent complètement indifférent, par exemple un jeu qui t'apporte rien. Tu vois.
Alors je suis pas tout à fait d'accord parce que les jeux qui étaient autrefois mauvais c'était vraiment des énormes catastrophes. Je vous renvoie à des vidéos du genre de Grenier où il s'énerve sur des jeux qui ont des vrais problèmes de conception, tu vois. C'est-à-dire que
il y a pas de patch à l'époque, donc voilà.
Parce que le jeu est fondamentalement mal conçu. Donc je suis pas tout d'accord avec ça parce que pour moi un jeu moyen aujourd'hui, à minima, c'est un jeu qui n'a pas les problèmes qu'on peut voir dans les jeux que moi je qualifierais de mauvais, c'est-à-dire des bugs partout, ce genre de choses, tu vois.
Ouais.
Et justement, pour moi, un jeu moyen d'aujourd'hui, en fait, si tu veux, c'était les jeux qui, à 4-5 ans, on aurait dit qu'ils étaient bons, parce que on n'avait pas encore cette lassitude, tu vois. Mais aujourd'hui, en fait, ça ne suffit plus, tu vois, de faire un jeu qui est correct, qui a pas de bug, qui tourne, qui se l'a joué. Ça ne suffit plus, en fait.
Oui.
Pourquoi? Parce que on est des vieux routards et que là encore une fois je parle de mon point de vue. Hein. Je sais pas si c'est clair pour tout le monde depuis le début, mais on donne notre point de vue à nous.
Bien sûr. Hein.
Ouais. Voilà. Je précise parce que des fois il y a des gens, ils montent tout de suite sur leurs grands chevaux comme si on leur imposait notre avis en fait. Alors, c'est pas le cas, tu vois. Je pense que il y a beaucoup de jeux aujourd'hui qui moi me paraissent médiocres. Mais qui en réalité sont bons quoi. Mais c'est juste que je sais déjà ce qu'il faut faire avant d'y avoir joué quoi. Alors c'est on va me dire c'est peut-être une maladie, je pense pas, parce que en vrai de toute façon il y a tellement d'offres aujourd'hui que c'est très rare que je tombe sur un jeu vraiment moyen, enfin que je considère moyen, tu vois. Donc ouais. Heureusement grâce aux jeux indépendants, heureusement grâce à certains studios qui se remettent à faire du AA, etc., il y a encore des jeux aujourd'hui qui me mettent des étoiles dans les yeux, quoi. Donc voilà.
Mais voilà, c'est ce que j'allais dire aussi, Tyran, c'est que si on prend juste le sujet des jeux boîtes, comme l'avait dit ATH, si on compte pas les jeux indépendants, c'est vraiment plus pareil, parce qu'aujourd'hui, c'est eux, enfin depuis quelques années, qui ont amené un renouveau en termes de gameplay, en termes d'idées, en termes de DA, et qui ont apporté autre chose. Et aujourd'hui, comme tu dis, il y a peut-être certains gros studios ou au moins des AA qui disent « Ah, faut qu'on arrête de faire du classique et on va essayer de sortir un peu des sentiers battus ». Mais c'est vrai que bon, si on prend par exemple l'exemple des gros AAA, on est toujours servi à la même sauce. Ce qui n'empêche pas que parfois on peut s'amuser. Moi, si je prends l'exemple du dernier Spider-Man, qui est un peu plus classique dans son gameplay, j'ai passé un bon moment dessus.
Mm-hmm. Ouais, mais tu vois, il faut que le jeu soit parfait.
Il faut pas qu'il ait en plus un bug, enfin des bugs ou ce genre de choses, etc. C'est sûr. Il faut que si le gameplay, on va dire moyen, il faut que le reste du jeu soit au niveau pour quand même passer un bon moment dessus. Ouais.
Ouais, mais regarde, Spider-Man, c'est un jeu où tu il n'y a pas 45 000 jeux qui te proposent de te balader de building en building avec une physique aussi bien travaillée que le
Spider-Man. Ouais, bien sûr, mais par contre, en termes de gameplay, à part si t'enlèves ce côté mouvement entre les buildings, c'est des tours à libérer, c'est les mêmes objectifs, les mêmes missions annexes que tu fais 50 fois dans le jeu. Enfin bon, tu tournes game vachement en rond.
Ouais, après c'est des trucs qu'on a vu et revu.
Voilà, c'est ça. C'est pas une nouveauté. Il apporte très peu de nouveautés le jeu en lui-même.
Ah ouais, clairement. Mais il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte en réalité dans l'appréciation d'un jeu. Moi, je me rends compte que l'état d'esprit dans lequel je me lance en fait dans un jeu joue aussi sur mon appréciation du jeu.
Bah oui.
C'est-à-dire que si je lance un jeu et j'en attends rien. Que le jeu est tout à fait correct, c'est-à-dire sans bug, le gameplay est tout à fait, enfin, il roule, il y a aucun problème technique, etc. Et en plus, il a le petit truc comme ça qui me fait y retourner. Ben, j'aurais plus tendance à être positif par rapport à ce jeu-là que si c'est un jeu que j'attends énormément, sur lequel je me suis énormément renseigné et que j'ai potentiellement payé au prix fort. Et qui au final est exactement pareil. Il est correct. Techniquement, il est bon. Visuellement, c'est joli. Le gameplay roule, mais il m'apporte rien d'autre. Et donc c'est très compliqué en fait hein, de juger. De ça n'existe pas de façon de juger un jeu de manière objective. Mais c'est vrai que il y a pas mal de facteurs qui font que l'appréciation est plus ou moins positive en fonction de certains critères quoi.
Bien sûr. Alors après dans le chat on a Babibibu qui nous dit on juge aussi la qualité d'un jeu en fonction des attentes qu'on y place. Je suis entièrement d'accord. D'ailleurs il a aussi apprécié The Order mais il l'a payé 6 euros donc on peut comprendre pourquoi il a peut-être apprécié l'expérience. Hicham qui nous disait quelque chose d'intéressant aussi, je trouve, c'est on peut dire aussi les anciens jeux qui étaient bons à l'époque sont des bouses aujourd'hui. Par exemple le premier Tomb Raider, bah c'est vrai qu'en termes de gameplay ça a vieilli par exemple. Il y avait aussi quelque chose qui était quelque chose que j'aimais bien, c'était après ça nous parlait aussi de jeux bon là qui ont un peu marqué ces dernières années. Par exemple il y a The Witcher 3 qui est pour VOS qui n'a pas vu mieux depuis ces 4 dernières années, puis après on lui a conseillé du Red Dead Redemption 2 et du Zelda. Et la phrase que j'aime bien, c'est Veos qui nous disait « Je m'attendais à rien, je suis quand même déçu » en citant « Dewey » de Malcolm. Non, mais en fait, pourquoi aujourd'hui, entre guillemets, les mauvais jeux, quand on parle de ceux qu'on est en train de citer, n'existent plus? C'est parce que déjà, il y a les coûts budgétaires qui ont augmenté, et du coup, les éditeurs, ils prennent de moins en moins de risques. Donc ça, c'est un fait, on est au courant, ils veulent avoir une rentabilité sur leurs jeux. De plus, maintenant, les moteurs sont beaucoup plus accessibles qu'à l'époque. Aujourd'hui, voilà, avec il y a beaucoup de jeux qui utilisent les mêmes moteurs déjà, et ça aussi, ça peut, je pense que ça peut poser un problème. Par exemple, l'Unreal Engine 4 qui est utilisé à foison dans beaucoup de jeux, et avant c'était le 3 sur l'ancienne génération. On avait des jeux qui se ressemblaient pas mal en termes de direction artistique, hein. Rappelez-vous le début de la génération PS3 360. On disait, ouais, putain, mais c'est quoi ces jeux marron gris, quoi? Il y en a.
Mais après, ça, c'est pas la faute du moteur. C'est parce que t'as des studios qui ont la flemme et qui se sortent pas les doigts pour faire
oui,
quelque
parce
chose.
Parce qu'avec le même moteur, il y en a qui font des trucs bien aussi. Donc.
Oui, bien sûr, mais voilà. Il faut sortir les doigts, quoi, comme tu dis. Et
ça, c'est
un fait que, par exemple, les mecs, ils faisaient des jeux qui avaient la même direction artistique, et en plus de ça, ils proposaient des univers quasi similaires, et il faut savoir aussi que les moteurs ont des spécificités. Bon, un moteur va mieux gérer la lumière que d'autres, etc. Donc et ça, aujourd'hui, on voit de moins en moins de personnes qui, enfin, d'éditeurs qui ont des studios, des moteurs internes. Par exemple, on avait Konami avec le Fox Engine, mais bon, Konami, on sait qu'aujourd'hui, ils font plus de jeux. Bah là, récemment, il y a eu Capcom avec le RE Engine qui a fait son propre moteur maison, qui est intéressant parce qu'il justement il se différencie un peu des autres. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui dans la manière dont on joue un jeu vidéo, je pense que bah déjà il y a aussi beaucoup d'attentes et si l'univers nous parle ou pas en tant que joueur. Mais comme je le disais, voilà, pour revenir en fait au début de mon argumentation, c'est est-ce que les mauvais jeux existent, n'existent plus? Bah alors moi je pense pas. Je pense qu'il y aura toujours des mauvais jeux comme à l'époque. C'est juste qu'ils sont de moins en moins présents par rapport au fait que voilà, ce que j'ai cité déjà, les deux arguments que les jeux coûtent de plus en plus cher et que les moteurs sont maintenant un peu plus évolués et puis disponibles au plus grand monde. Mais aujourd'hui je trouve que en fait un jeu chiant était il y avait moyen de s'amuser des fois avec. C'est-à-dire un jeu chiant, bah s'il avait certaines qualités que d'autres jeux n'avaient pas, ou bien qu'ils prenaient des risques, et bah tu pouvais quand même y prendre plaisir. Mais aujourd'hui, je trouve que les jeux que j'ai cités ou bien qu'on nous propose sont des jeux qui sont tellement fades, bah que c'est encore pire. C'est-à-dire que le jeu te laisse complètement indifférent. Et moi, je trouve qu'en fait, c'est pire qu'un mauvais jeu, parce qu'un mauvais jeu, au moins tu vas t'en rappeler, alors qu'un jeu qui te laisse totalement indifférent, bah d'ici une semaine, tu l'as oublié, quoi. Et c'est ça. Et je trouve que c'est pire que tout, en fait.
Moi, il y a juste un truc que je voudrais dire, c'est que malheureusement, en tout cas, par rapport au jeu que moi je considère comme mauvais, parce que vous aurez compris que moi je suis d'avis que les mauvais jeux ils existent, et non seulement ils existent, mais en plus ils vont être de plus en plus nombreux vu le modèle économique vers lequel on se dirige.
Ouais,
mais le truc, ce qui a changé par rapport aux jeux à l'époque, c'est que les mauvais jeux de l'époque, ceux qui étaient pétés, etc., c'était pas forcément disons que les gens pouvaient avoir l'excuse à l'époque d'être des pionniers. Mmh. Tu vois. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore les codes établis qu'on a aujourd'hui, il n'y avait pas encore les outils qu'on avait aujourd'hui, il n'y avait pas encore les budgets qui peuvent y avoir aujourd'hui, il n'y avait pas encore le marché
en fait
qui peut y avoir aujourd'hui, tu vois. C'était beaucoup plus artisanal. Donc forcément, dans l'eau, il y en avait qui allaient faire de la merde, quoi. C'est obligé. Mmh. Tu vois. Mmh. Ah. Bon, ça plus le fait qu'il y avait forcément dans l'eau des gars qui étaient des escrocs. Voilà. le problème, c'est qu'aujourd'hui, bah, les escrocs, c'est la majorité, en fait. C'est-à-dire que, aujourd'hui, t'as plus d'excuses, en fait, pour faire un mauvais jeu. C'est-à-dire que si ton jeu, il est pété techniquement, si ton jeu, il a des soucis, c'est parce que t'as pas mis les moyens pour le faire. Tu vois. Je suis désolé, quand tu vois Fallout 76, et que tu regardes les interviews de Todd Howard, il le dit qu'il savait que son jeu c'était de la merde. Il le dit.
Mais il l'a dit après.
Il dit,
ça.
On savait que c'était un jeu qui allait pas faire un bon score sur Metacritic. Enfin, ça, ouais, ça veut tout dire. Mais il l'a sorti, ouais, quand même. Tu vois. Mais il l'a sorti quand même en connaissance de cause. Donc, maintenant, ce que je dirais, la grosse différence, à mon avis, qu'il y a entre les mauvais jeux d'aujourd'hui et les mauvais jeux d'hier, c'est que les mauvais jeux d'aujourd'hui, il y a une intention derrière, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que, bon, c'est de la merde, on sait, on va s'en prendre plein la gueule, mais on le sort quand même. De toute façon, ils achèteront.
Ouais. Voilà. Et le truc, c'est que il y a quand même pas mal de consommateurs, puisqu'à ce niveau-là, c'est des consommateurs, qui se voilent la face aussi dans le discours officiel qui est de dire oui, à l'instant T, c'est pas génial, mais on vous promet que d'ici quelques mois, un an, deux ans, ça sera exactement ce que vous a promis. Et ça, c'est aussi un effet pervers de la société de consommation, en fait. C'est que quand t'attends un jeu, reprenons l'exemple de Fallout 76. Toi, t'as envie d'y croire, en fait, que tu vas jouer à un Fallout complètement multijoueur. Et quand ça fait deux ans qu'on t'en parle et que on te dit que ça va être incroyable, mais que le jour de la sortie, en fait, bah tu te rends compte que c'est un peu la douche froide. Mais que toi, t'as toujours la main sur le porte-monnaie, en fait. T'as juste, enfin, t'as certains qui attendent juste que Todd Howard te dise non, mais t'inquiète, d'ici un an, ça va être nickel. Et derrière, bah ça balance des thunes par dizaines, quoi. Donc c'est compliqué. On en revient un petit peu au côté consommation, communication, et le fait que pour pousser à la consommation, t'as un certain nombre de carottes, en fait. Et pour le coup, c'est vraiment de la carotte.
Ah tiens, d'ailleurs, il y a dans le chat Babi Bibu qui nous parle de Deadly Premonition. Est-ce que, Mordrain, c'est possible que tu nous mettes une vidéo de ce jeu-là? Justement,
ouais,
j'ai envie de parler de ce jeu.
Ouais, carrément, je vais t'en chercher une.
Moi, j'avoue, Deadly Premonition, j'ai jamais compris, hein, mais...
Ouais, non, mais justement, c'est intéressant.
Ça fait partie de ces jeux, tu vois, où tout le monde me dit non, mais c'est génial, c'est de la merde, mais c'est génial, mais moi, je suis désolé, je comprends pas. Voilà, c'est mais ça c'est peut-être parce que aussi je suis très sensible à tout ce qui est gameplay, etc. Et moi, si t'as pas un gameplay aux petits oignons, tu peux me dire que c'est le jeu le plus génial du monde. Alors tu me diras, il y a l'exception Spec Ops The Line, mais Spec Ops, il a pas un gameplay de merde, hein. C'est juste qu'il est
lambda,
quoi.
Ah non, c'est classique, en fait. Ouais. C'est. Ouais. Mais est-ce que tu as joué à Deadly Premonition, toi ou pas, tiens, par exemple?
J'ai essayé,
ouais,
mais j'ai pas tenu.
T'as le gameplay, enfin, c'est-à-dire que tu pouvais pas.
Ah non, je pouvais pas. T'as des rejets physiques comme ça, tu vois. La graphe, elle a pas pris, quoi. C'est...
Et est-ce que quelqu'un y a joué parmi nous, par exemple?
Non, j'avoue que moi j'ai pas eu cette occasion. Non.
Ben?
Non, non plus.
Ok, bon, donc il y a que moi et Tyran qui l'avons testé. Donc alors moi je suis comme toi, Tyran, ouais. C'est-à-dire que j'ai voulu y jouer parce que tout le monde me disait c'est un jeu superbe. Et c'est vrai, effectivement, quand tu joues dans le jeu, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer parce que l'histoire avait l'air quand même sympa et bien racontée. Surtout il y avait ce côté enquête et tout ça. Mais par contre le gameplay, les mecs, je suis désolé. Alors ça, il faut savoir que c'est un jeu qui est sorti sur Xbox 360 tout d'abord. Ouais. Alors que la Xbox 360 était sortie il y a longtemps, mais parce que c'est un jeu qui avait énormément de retard, surtout qu'il n'avait pas d'éditeur. Donc le jeu à la base devait sortir sur PlayStation 2. Hein. Mais regardez dans quel état il est sorti. Pourtant aujourd'hui, c'est un jeu qui est culte pour beaucoup de gens qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout parce que l'histoire, la narration, c'était quelque chose qui ressemblait à du Twin Peaks et qu'on n'avait pas vu en jeu vidéo. Donc c'était quand même quelque chose d'assez intéressant. Mmh. Et justement, moi c'est ça que je trouve intéressant sur aujourd'hui, c'est avec ces jeux un petit peu fauchés. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils peuvent pas miser sur les graphismes, sur leur technique essentiellement, mais il propose justement des choses qui peuvent parler à un certain nombre. Et vu que le jeu, en fait, n'est pas censé s'adresser au grand public, et du coup, peut-être que le jeu va moins se vendre, mais va intéresser une certaine niche, et c'est ça qui va attirer les gens. Au tout départ, moi je vous rappelle, Demon's Souls, c'est un jeu de merde, hein. Demon's Souls, c'est un jeu de merde que j'aime beaucoup. Parce que les hitbox sont complètement pétés, hein. La physique est juste dégueulasse dans les jeux. Mais par contre, à l'époque où il était sorti, aujourd'hui d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui tout le monde, dès qu'il y a un jeu qui est difficile, on parle de Dark Souls-like à tort et à travers, à mon sens. Mais ouais, le jeu, il avait quand même quelque chose en plus. Mais pourtant, je vous jure, est-ce que tu peux mettre une vidéo de Demon's Souls juste pour qu'on voit, comme on se rappelle, parce que j'ai l'impression que pour les gens, c'était le plus beau jeu de la PS3. Alors c'est un jeu qui est juste vraiment dégueulasse, qui est horrible à voir. Et même en termes de maniabilité, on parlait de ce contrôle tank. Il faut voir que c'est un vrai jeu à l'ancienne. À l'époque où il est sorti, même moi quand j'y ai joué, je me suis dit mais c'est quoi ce jeu de merde, tu vois. C'est-à-dire que je me suis forcé à avancer dans le jeu parce qu'il proposait des choses qui n'étaient pas justement dans la concurrence et qui avait ce système un peu de challenger le joueur, mais aussi mis à part que la hitbox et tout il était cramé, il y avait quand même des choses qui étaient intéressantes dans Demon's Souls. Enfin, le gameplay était bon, c'était juste qu'il était mal réglé en fait. Et petit à petit en jouant à ce jeu-là, je me suis dit ouais, en fait le jeu il était quand même intéressant. Bon, C'est pas non plus mon jeu préféré de la PS3, mais voilà. Et après, quand Dark Souls est sorti, il corrigeait certaines choses, mais il avait quand même encore des problèmes de hitbox un peu pétés. Et surtout, voilà, techniquement, Dark Souls, que ça soit la version PC d'origine ou la version PS3 360, est juste une catastrophe par rapport aux autres jeux qui sont sortis à la même époque. Il faut se rendre compte. Regardez, ça c'est Demon's Souls. Voilà, si on vous met par exemple d'un jeu qui était sorti à la même époque, chez nous c'était Uncharted 2 par exemple.
Ouais. Alors justement, attends, je voulais te poser une question, tiens. À mon avis, ça serait valable pour Deadly Premonition aussi.
Oui, bien sûr.
Imaginons, tu vois, vous savez qu'il y a beaucoup de rumeurs qui disent que le studio qui a fait le remake de Shadow of the Colossus bosserait sur un remake de Demon's Souls. Est-ce que un remake de Demon's Souls avec des hitbox nickel, une technique nickel, un rendu nickel, etc., est-ce que ce serait toujours Demon's Souls? Pareil pour Deadly Premonition, imagine, ils refont un remake de Deadly Premonition, le gameplay corrigé qui est nickel, la technique qui est aux petits oignons, un truc qui pète le feu, tu vois. Est-ce que c'est toujours Deadly Premonition, quoi?
Alors moi, je
pense que est-ce que ça fait pas partie de l'expérience, le côté pété?
Alors moi, je vais répondre de manière totalement subjective. Non, objective, parce que voilà, c'est mon avis et je l'impose à tout le monde, donc j'ai raison, c'est comme ça. Mais par exemple, je vais prendre un exemple qui est connu dans le jeu de vidéo, c'est Resident Evil 96 et son remake 2002. Pour moi, il y a deux versions du premier Resident. Il y a celle de 96 et celle de 2002. Donc, on va pas dire que le premier remplace l'autre. Donc, s'ils font un remake de Demon's Souls, pour moi, Demon's Souls, ça restera toujours la version d'origine sur PS3 qui est crade, qui est même parfois injouable, qui est même injuste. Par contre, s'ils font un remake qui va corriger certaines choses, je pense que ça peut être bien pour les gens qui ont connu justement les jeux From Software via Dark Souls, qui vont découvrir ce jeu-là qu'ils n'ont pas pu faire parce que c'était déjà une exclusivité PlayStation 3, donc il y a le problème de la console. Mais en plus de ça, s'il permet d'avoir une autre vision, ça sera intéressant d'un point de vue remake, tout simplement. Et donc, pour moi, il y aura deux versions de Demon's Souls. Une version, on va dire, la version d'origine, qui est la vraie version, puis la version remake, qui peut, après peut être même supérieure à la version d'origine, hein. c'est pas le souci. Et c'est juste que ça sera une version, pour moi, différente du jeu.
Voilà, donc si vous voulez le nanar, il faut jouer au jeu d'origine.
Et parce qu'il y a aussi ça, hein, il y a certaines personnes qui recherchent aussi l'expérience du nanar, alors ça se fait beaucoup plus au cinéma. Mais il y a aussi ça qui joue, hein, dans le jeu vidéo. Certaines personnes recherchent aussi une expérience pas tout à fait lisse, un petit peu pétée, mais parce que voilà, c'est ça que tu recherches, quoi.
Ouais, mais après, dans le jeu vidéo, on va dire, c'est de faire un nanar vidéoludique, c'est beaucoup plus difficile que qu'un film, entre guillemets, parce que dans le jeu vidéo, le langage premier quand même, c'est le jeu vidéo, alors que dans le film, en général, les nanars, on rigole parce que les dialogues sont pourris, la mise en scène est ratée et tout ça. Alors dans un jeu vidéo, ok, bon, même encore aujourd'hui, je trouve qu'il y a par exemple des doublages en VF qui sont complètement ratés. Le doublage, par exemple, de VF de Control, pour moi, est raté. C'est un doublage qui n'est pas à faire. Ouais.
Oui, vas-y.
Non,
vas-y.
C'était juste pour finir sur Control, c'était juste que, par exemple, Control, si vous y jouez aujourd'hui, je vous conseille d'y jouer en VO, mais il y a d'autres jeux, par exemple Spider-Man, lui qui est, vu qu'il est sur PS4, si tu veux avoir la VO par exemple, t'es obligé de mettre le jeu, la console en anglais pour avoir la version originale. Du coup, moi j'y joue en VF parce que ça me fait chier, mais la VF est quand même de bonne qualité. Et avoir un nanar vidéoludique aujourd'hui, bah ça se fait plus trop. Pour moi, les derniers nanars que j'ai pu jouer, c'était à l'époque de la PS2. Par exemple, c'était des jeux qui étaient comme La Grande Évasion, un jeu qui était donc l'adaptation d'un film qui était sorti dans les années 60, et qui est, franchement, si vous pouvez y jouer à ce jeu, il est juste culte parce que, enfin pour moi il est culte parce que c'est un jeu qui est complètement raté, hitbox dégueulasse, caméra injouable, jeu complètement à chier, il rame pour n'importe quelle raison, c'est un jeu où ça mélange l'infiltration, mais les IA, soit elles te voient, soit elles te voient pas, enfin c'est complètement nul à chier, par contre les doublages VF de ce jeu là sont à mourir de rire, le jeu est ultra buggé, et moi, si tu veux, c'est un jeu, en fait, il est pourri, hein. C'est-à-dire que si je devais le noter, je lui mettrais une 2 sur 20, tellement il est nul. Mais j'ai gardé des bons souvenirs, parce qu'en fait, le jeu, il m'a fait marrer, tu vois, parce qu'il m'a fait marrer contre lui, donc c'était pas une volonté du studio de faire un truc à la Monkey Island, de faire un truc drôle, tu vois. C'était juste que le jeu était tellement mauvais que j'ai... En fait, c'est tellement... Si tu veux, c'est le syndrome, c'est tellement mauvais que ça en devient bon, tu vois.
Alors juste, je note moi un message de Babubi Bubu qui nous dit « Demon's Souls culte pour moi, mais il m'a fallu 6 ou 7 tentatives pour avant d'accrocher et de finalement le platiner. » Ça, ouais, je suis admiratif. Parce que justement, par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début, là, moi, je rebondis un peu aussi au passage sur ce qu'avait dit Ben tout à l'heure. Mm. Moi, j'ai plus le temps pour les jeux médiocres, en fait.
Ouais.
Et le truc, c'est que moi, si un jeu ne me montre pas quelque chose qui me fait dire ça vaut le coup que j'y investisse du temps, si ça vaut pas le coup d'y investir du temps, enfin moi j'investirai pas quoi. Enfin, ouais, il faut vraiment, tu sais, qu'il y ait cette étincelle qui me fait dire que je vais continuer. Mmh. C'est pour ça que moi j'enchaîne souvent des achats, tu sais, sur Steam, etc. Bon, moi en ce moment, vu que j'ai un appartement à payer, n'est-ce pas, mais c'est pour ça que j'ai eu à un moment donné cette frénésie de consommation de jeux, parce que je passais souvent d'un jeu à l'autre pour tester, quoi, tu vois.
Ouais.
Mais le problème, c'est, mais par contre, je laissais pas beaucoup de chance au jeu, et j'ai plus le temps de faire comme Bababibu, tu vois, de recommencer 6 ou 7 fois,
ouais,
et de dire, allez, on va insister jusqu'au bout, tu vois, et on va finir par trouver quelque chose. J'ai plus cette patience-là, ni le temps, en fait.
Ouais, mais non seulement, en plus, il faut que le jeu te montre cette étincelle, comme tu dis, mais en plus, cette étincelle, il faut qu'elle arrive tôt, en fait, parce qu'on a tellement plus le temps de leur accorder de l'intérêt, que si en plus ça arrive après 5 heures de jeu, bah désolé, mais moi j'ai arrêté avant. Hein.
Ouais, mais ça c'est un problème aussi en fait, parce que je sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire pour par rapport à ça, mais parce que je voudrais aussi enchaîner sur quelque chose d'autre, justement par rapport à ce qu'a dit Mordren.
Vas-y.
C'est juste que bon, déjà Babubu Bibu, ton pseudo il est chiant à dire, donc je vais t'appeler Babidi maintenant. N'en veux pas, mais voilà, ça sera plus simple pour moi. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est que en fait, il y a des études marketing qui ont été faites par rapport au fait que les jeux, justement, les joueurs ne les terminent pas. Du coup, en fait, ils calibrent tout les meilleures séquences sur les premières parties du jeu. Mmh. Et en général, c'est ce qui fait que quand t'arrives à un jeu, tu dis, putain, le jeu, il était bien, mais la fin était bâclée parce que, justement, en fait, ils ont vu qu'ils ont tout misé sur le début. Ça pose, en fait, un autre problème pour moi qui est le rythme. Et justement, ça, c'est, il faudrait, en fait, que les jeux arrivent à, comment dire, à mettre quelque chose d'assez intéressant qui te donne envie de progresser dès le début sans justement te donner les grosses cartouches, tu vois. Ouais. Je sais pas si vous êtes d'accord par rapport à ça.
Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, il y a le côté filou en fait du truc, c'est pour essayer de capter l'intérêt vite et du coup sur le long terme. Effectivement, c'est bon. C'est pas très honnête.
Après, moi, le contre-argument que je pourrais donner à ça, c'est que, enfin, en général, les jeux qui sont compensés comme ça, vous m'excusez, mais tu les vois venir à 20 km, hein. C'est quand même des productions qui sont ultra calibrées et où tu sens que bon, voilà quoi. Enfin, j'ai rarement vu des jeux qui avaient un début que je qualifierais vraiment d'exceptionnel.
Ouais.
Et qui derrière se plantait, quoi. En tout cas, de mon point de vue.
Ah bah, Mafia 3. Mafia 3, c'est-à-dire que Mafia 3, ils ont mis toutes les meilleures séquences du jeu dès le début. Première heure de jeu. Franchement, la première heure de jeu a été magnifique. Je me suis dit, oh putain, c'est la suite de Mafia 1 et 2. Je suis ok. J'ai fini l'introduction, mais j'ai pleuré. C'est-à-dire, en fait, dès que le jeu te donne les clés du monde ouvert, le jeu est à chier. C'est une merde.
Ouais.
On disait justement les jeux de merde qui n'existaient plus. Bah si, Mafia 3 est une merde sans nom. Qui n'a que de seul intérêt d'avoir un scénario assez intéressant, même si très classique, mais d'un point de vue de sa narration, si tu veux, les acteurs ils ont pas fait n'importe quoi. Ils ont même en VF, ils ont fait un travail de qualité et l'histoire était quand même assez intéressante vis-à-vis de la relation entre les personnages et tout. Il y avait des idées, mais par contre le jeu complètement buggé. Ultra répétitif, des choses qui étaient vraiment inintéressantes à faire. Donc si tu voilà, là on a l'argument de la bonne boost, tu vois. Mais c'est la boost qui est cachée, c'est-à-dire au début, je te jure, ils te mettent les étoiles dans les yeux, c'est-à-dire tu dis, t'as l'impression de voir Shakira et t'allumes la lumière et en fait voilà, tu te rends compte que t'as juste une vieille pute roumaine de 70 ans devant toi, tu vois.
D'accord, donc c'est la bouse cachée sous le papier journal, quoi.
Voilà.
Ouais, non mais ouais, c'est sûr que bon, alors c'est ça reste relativement rare ce genre de truc, mais effectivement, moi de toute façon j'ai déjà pas le temps pour les bons jeux. Alors si en plus il faut que je dédie du temps aux jeux moyens et aux jeux mauvais, c'est même pas la peine en fait.
Je pense pour la conclusion, ça serait ça qu'il faudrait dire quoi, c'est que bon, il y a des jeux mauvais, hein, mais en fait, de toute façon, on a déjà pas le temps de jouer au bon. Ouais. Alors.
Mais je veux dire, on choisit nos plateformes parce qu'on sait que c'est plutôt sur celle-là que ça se passe. Mm-hmm. On choisit aussi en fonction de nos goûts parce que bon bah voilà, on est plus ou moins là depuis plusieurs décennies. On sait maintenant ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, ou ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'essayer, etc. Et en plus, on se renseigne beaucoup plus qu'avant. Mm-hmm. Et tout ça fait que on invisibilise un petit peu la production mauvaise de jeux vidéo. Et c'est quelque part c'est normal quand tu te crois gamer éclairé en fait.
Bah de toute façon j'ai cité ça aussi en si on avait parlé de Steam au début, c'est ce dont j'aurais parlé. Il y a 3 milliards de merde qui sortent sur Steam tous les jours. Mais on les voit pas. Tu vois, enfin c'est ça enfin on ne les voit pas. Elles n'existent pas en fait.
Ouais.
Donc c'est pas un problème en soi, tu vois. C'est plus un problème de visibilité entre jeux qui sont bons, tu vois, mais qui n'arrivent pas à cibler leur public. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué, quoi.
Mmh.
Après, moi, encore une fois, bon, ben, les jeux mauvais, oui, ils existent. C'est pas trop grave. Moi, si vous voulez, pourquoi je gueule chaque semaine sur les Ghost Recon, sur les jeux Ubisoft, d'une manière générale, parce que, voilà, ils le valent bien, ou certains jeux d'autres éditeurs comme Activision, etc. C'est pas pour moi. Hein. C'est des jeux qui m'intéressent pas.
Ouais.
Moi, je m'en fous, à la limite, hein, tu vois, c'est pas un souci. Ce qui me pose problème, c'est que ces gens-là prennent ouvertement leur public pour des cons. C'est ça, hein. Mais sinon, à part ça, bon, je veux dire, Ghost Recon est bugué, c'est pas grave, hein. T'en as 36 à côté, donc voilà. Ouais.
C'est là où on peut presque voir le double sens derrière le mot mauvais, parce que tu peux être mauvais, c'est-à-dire que t'as des défauts, mais tu peux être mauvais au sens mesquin.
Mmh.
Et pour le coup, là, les jeux mauvais de ce point de vue-là, ils ne font qu'exister de plus en plus. Donc effectivement, la question peut du coup être amenée à digresser énormément, mais pour le coup, effectivement, il y a des jeux mauvais de ce point de vue-là. On n'a pas fini d'en voir.
Non, mais justement, c'est pour ça que j'ai laissé le sujet un petit peu flou, vaguement. Pour justement, parce que dans mauvais on peut mettre plein de choses. Et
ouais.
Un jeu mauvais pour moi n'est pas.
Et puis ce qui est mauvais pour toi ou moi n'est pas forcément mauvais.
Bien sûr. Ouais.
Et justement c'était pour ça que c'était mauvais, justement pour voir les différents points de vue des gens. Du coup ça pouvait être mauvais en termes de marketing. Bah ça c'est quelque chose qu'on n'a pas trop abordé, mais ça pouvait être aussi de ce point de vue-là. Ça pouvait être aussi mauvais en termes techniques, mauvais en termes de qualité ludique, etc. Donc il y a plein de choses que pour certaines personnes qui considéraient un jeu qui est mauvais, d'autres ont considéré que le jeu est plutôt bon, bien, voire même excellent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est justement d'ouvrir le débat sur cette discussion-là, parce que c'était une phrase qu'on entendait quand même assez souvent. Et moi, du coup, j'y avais pensé en jouant à Days Gone, comme j'avais dit. Et je voulais justement qu'on ait ce sujet-là pour qu'on puisse avoir les différents points de vue des gens. Et justement.
Mais encore une fois, tu vois, ça, cette affirmation, c'est une affirmation qu'on entendait beaucoup il y a 4-5 ans. Tu vois.
Mmh.
Ouais. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on l'entend plus trop.
Ouais, bah, c'est vrai. Parce que ça a changé, mais justement, c'était.
À raison.
C'est intéressant de voir aussi un peu l'évolution des mentalités. Et comme tu l'as dit, voilà, aujourd'hui, il y a des jeux qui sont clairement très pas finis, qui méritent même pas d'être sortis day one. Pourtant, ils sont là, sortis day one, parce que il y a les fameux patchs qui des fois même les patchs est plus lourd que le jeu. Donc tu dis, ok, là il y a un problème, les gars. Quand le patch est plus lourd que ton jeu de base, il y a un souci. D'ailleurs, ça.
Non, faut arrêter avec cette légende. Hein. Les patchs day one, ça ne règle pas des problèmes des jeux qui sont fondamentalement pétés. Hein. Ça, c'est ce que veulent vous faire croire les éditeurs pour vous acheter quand même le jeu, mais voilà quoi.
Ouais, mais surtout moi, par exemple, Days Gone. C'est un jeu que j'ai arrêté d'y jouer parce que voilà, il m'apportait rien. Mais par contre, il était toujours installé sur ma PS4. Et tous les jours, quasiment, j'avais une nouvelle mise à jour. Mais les mises à jour, c'était pas des 1 giga ou 2 giga. Tu vois, encore là, j'en fais ok, bon. Mais déjà, tous les jours qu'il y a, toutes les jours, toutes les semaines, il y a des nouvelles mises à jour. Mais c'est à la base de 20 giga, 30 giga. Mais je fais bétain, mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Il retélécharge tout le jeu ou quoi? Parce que, enfin, qu'est-ce qui se passe? D'où tu vois que des mises à jour de 30 gigas? Et des fois, enfin, ce qui était marrant, c'est que j'avais même pas le temps de finir la précédente mise à jour, que j'en avais déjà une nouvelle qui était tout aussi grosse. J'ai fait waouh, 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 les mecs, c'est vraiment que votre jeu, il est terminé avec le cul pour en arriver à ce moment-là, à ce niveau-là, quoi. Et donc, voilà, moi, je pense que c'était un sujet assez intéressant à aborder parce que, voilà, Deadly Premonition, un jeu que beaucoup considèrent comme un jeu culte, bah tu vois, c'est, je pense que fondamentalement on peut dire que c'est un jeu mauvais, mais c'est un jeu que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit franchement c'est un jeu excellent et tout, et peut-être qu'un jour s'il sort justement une version remaster ou remake de ce jeu là avec un truc qui est pas trop fini à la piste, c'est-à-dire avec un vrai gameplay moins rigide et tout, peut-être que je redonnerai une chance, mais pour l'instant, là, j'ai déjà, je pense, assez donné. Et c'est malheureux parce que le scénario, il m'intéressait. Et du coup, j'aimerais bien savoir, connaître la suite de l'histoire. Donc, je pense que, voilà, il y a des choses encore à creuser à ce niveau-là. Mais, en tout cas, c'était un sujet très intéressant. Voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à dire pour la fin de ça. Vas-y,
non,
tiens.
Non, personnellement, j'ai rien à ajouter.
Non, on peut peut-être terminer avec un des derniers éclairs de génie d'LKBD sur le sujet qui dit qu'il y a de moins en moins de productions mauvaises au niveau technique ou au niveau du gameplay, mais de plus en plus de jeux fades et sans âme.
Alors, encore une fois, ça dépend du contexte. Si tu me dis que c'est le contexte général, je suis pas d'accord.
Non, ça reste dans le contexte qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les jeux.
Même là, j'aurais
physique,
quelque chose
quoi.
À redire. Parce que. Oui, enfin non justement parce que t'as de plus en plus de gens en accès anticipé, tu vois, qui disent pas. Donc enfin je suis pas tout à fait d'accord.
Il parle des jeux triple A.
Oui mais justement, t'as de plus en plus de jeux triple A en accès anticipé. moi justement pour moi, on est dans l'inversion de la courbe là, en fait, si tu veux. Jusqu'à il y a 2-3 ans, tu vois, la courbe est montée en termes qualitatifs. Quand je dis qualitatif, c'est-à-dire en termes techniques, etc. Et maintenant, il y a 2-3 ans, les éditeurs ont découvert l'early access, et ça repart dans l'autre sens, tu vois. En plus, ça se combine très bien avec le jeu à service, donc bon, moi je suis pas tout à fait d'accord, voilà.
T'es pas d'accord sur le côté de moins en moins de productions mauvaises au niveau technique et au niveau gameplay, d'accord.
Voilà. Oui, okay. Je pense que des jeux comme Anthem, enfin tous les exemples qu'on a cités jusqu'ici, c'est des jeux qui prouvent que qui n'auraient pas existé il y a 4-5 ans.
Ouais. D'ailleurs, pour finir, je pense que ça serait intéressant de finir là-dessus. C'est sur ces dernières années, on va dire, on va prendre en compte le début de la génération PS4, Xbox One. Sur cette dernière année, vous me citez tout le monde, même le chat, me cite un jeu mauvais pour lui qui considère comme mauvais. Un jeu qui était mauvais, qui n'a pas apprécié, mais ça peut être un jeu qui était bien et tout, mais genre mauvais pour une raison ou une autre. Donc vas-y, Tyran, est-ce que t'en as un toi directement ou pas? Comme ça de tête.
Non mais si tu veux, j'ai déjà cité, enfin des jeux auxquels j'ai joué moi en fait.
Ouais, un jeu que tu trouves que
je non, moi je ne joue qu'à des jeux de qualité, monsieur.
Non mais parce que par exemple, il y a beaucoup de jeux que t'as lâché ces derniers temps, que t'as
c'était pas des jeux mauvais en fait. C'est juste que j'avais vu ce que j'avais à voir dessus et que je ne ressens plus le besoin de vouloir absolument finir mes jeux, mais c'était pas des jeux mauvais. Par contre ça je même Assassin's Creed qui m'a emmerdé comme pas possible, je pense que ce serait malhonnête intellectuellement de ma part de dire que c'est un jeu mauvais en fait.
Par exemple dans le chat, Hicham nous dit Gears of War 5. Enfin Gears 5, mais je suppose que c'est Gears of War 5. Ouais. Bubu qui nous dit Rime. Est-ce que toi?
Ah mais A Way Out, voilà.
A Way Out, ok. Ben, est-ce que tu es toujours là, Ben?
Oui, je suis toujours là.
As-tu un mauvais jeu, toi?
Bah, je peux aussi citer A Way Out. Moi, comme je l'ai dit, il y a The Witcher 3 sur lequel j'ai pas du tout accroché, mais je peux pas dire que c'est un mauvais jeu. C'est vraiment moi qui ai pas accroché. Après, est-ce qu'il y en a d'autres? Sûrement, je vais y réfléchir. S'il y en a un qui me revient, je te dis ça.
Ok, et bah moi je vous ai déjà dit tout à l'heure quand j'ai parlé un petit peu, donc c'était Mafia 3, The Order, Days Gone, et puis Final Fantasy XV, et dernièrement, tu vois, ceux qui me reviennent, les premiers qui me reviennent en tête,
Et Mandrane, il pue de la gueule ou
non? Bah Mandrane il réfléchissait, donc je lui laissais un petit peu de temps.
Ouais,
je sais pas si on en a trouvé ou pas.
J'en ai trouvé un. Ouais, No Man's Sky.
No Man's Sky.
Ouais. Donc, No Man's Sky dans sa version de base.
Ouais. Et tu as rejoué après par la suite ou pas?
J'y ai rejoué après, mais ça m'est toujours tombé des mains.
Ok.
Mais toi, Mandrane, je crois qu'aussi tu es passé.
Oui. Ouais, après.
À autre chose.
Oui, voilà, c'est ça. C'est, encore une fois, je parlais de contexte dans lequel tu te lances dans un jeu, ben, c'est exactement ça. Moi, j'ai fait une overdose d'un certain genre de jeu. Et, voilà.
Il y a Kitcha qui nous dit Gear of War 4. Ben, décidément, Gear of War n'est pas à la fête sur cette génération. Donc, bah, là, je pense qu'on a fait le tour, hein. On peut. Ouais,
je pense qu'on.
Conclure le podcast, non?
On va couper tranquillement.
Ouais.
Hein. Ouais. Donc les gens, merci d'être passés.
Oui.
Et puis on se donne rendez-vous à la semaine prochaine.
Yes. Salut tout le monde.
Salut.
Salut.